Jus de cerveau, une balado sur la création. Jus de cerveau, dans sa toute première saison, s'appelait au complet Jus de cerveau, sa dactylo, puisque je décrivais le processus d'écriture, de révision, d'édition et de publication de mon deuxième roman. Et aujourd'hui, maintenant que je vais vous parler du processus créatif de l'adaptation théâtrale de cette même histoire, j'avoue que je me questionne sur la notion de jus de cerveau que j'avais moi-même pas revisité. À l'époque, je disais que jus de cerveau, tu sais, c'était le côté très impulsif, très viscéral, la création, tu sais, que ce petit vomi. Et peut-être que finalement, c'est ça, la création, c'est un vomi de cerveau. Faut changer le nom de cette balado, ou pas tout à fait, parce que en produisant une pièce de théâtre, je vous cacherai pas que j'ai surtout eu l'impression que, ouais, j'ai eu besoin de mon jus de cerveau. Mais pas celui que j'aurais cru. Jus de cerveau de gestion, jus de cerveau plus rationnel, jus de cerveau qui écrit des demandes de sub, du gros jus de cerveau. Je m'appelle Jolaine Ruet, j'ai animé de 2012 à 2018 Critique de Crowd et oh, je reviens toujours un peu sur les ondes. Question de critiquer les foules là où ça donne bien sur les ondes de la marge. Sinon, j'ai aussi animé Jolaine Jazz de Gueuleuse pour vous parler de punk, de hardcore, de métal au féminin quand ça gueule, ça m'enchante. Et je reviens aujourd'hui vous parler de processus de création avec Jus de cerveau, cette troisième saison. Épisode 1, la Genèse. Pour adapter, ben, il faut toujours bien une histoire à la base. Et dans mon cas, ce sera mon deuxième roman que j'ai voulu mettre sur scène et qui est paru le 7 juillet 2020, alors qu'il était complètement en pause. Il était supposé sortir en avril à cause d'une certaine pandémie qui a remis sur pause toute l'industrie du livre. Fait que je pense qu'il était pris entre, entre le distributeur et les libraires, dans la craque du système. Oh mon Dieu, je me rappelle, mon éditrice, elle m'avait dit « c'est pas la craque du système, c'est plutôt un peu comme un tapis roulant là, qui serait sur pause. Il était sur son air d'aller, là. Il était pas perdu, tombé du tapis. » Et comme de fait, quand la grosse machine des libraires et des distributeurs se sont remis à fonctionner, ben, mon livre s'est rendu à destination à simplement quelques mois de différence. Et sortir un livre l'été, ben, j'avoue, c'est pas très habituel, mais ça m'aura permis de faire un lancement inusité, ouais. Ben, déjà en partant, j'avais déjà l'intention de faire un lancement original, là. Je voulais faire une classe de ballet. Tu sais, tant qu'à parler de ballet, je voulais comme que les gens qui soient présents au lancement puissent vivre, voir, expérimenter la danse. Et là, dans le contexte qui était à l'époque, ben, je me suis dit, dehors, c'est sécuritaire. Et faire une classe de ballet dans le lieu fort du roman, soit le Dairy Queen sur Sainte-Catherine, ben ça pouvait pas être mieux! Alors, j'ai repris contact avec... Oh mon Dieu, j'ai repris contact avec... avec la gérante du Dairy Queen qui se rappelait plus ou moins de moi. Tu sais, j'étais pas super marquante en tant qu'employée, mais je la remercie encore, Caroline. Elle a toujours été willing quand je l'ai recroisée, quand j'y reproposais quoi que ce soit de son aide. Elle a vraiment été présente. Merci encore, Caroline. Fait que, ouais, elle nous a laissé son stationnement pour qu'on donne une classe de ballet dehors qui était suivie d'une lecture donnée par le liseur public. Et pour moi, c'est vraiment pas inusité, inversement, dans ma tête, d'organiser de quoi. Je pense que ça a toujours été là en moi d'organiser des choses qui sortent un peu du cadre. Parce que depuis le primaire, en deuxième, je pense à partir de deuxième année primaire, j'organisais tout le temps des activités. J'appelais justement ça des activités. Des jeux, des quiz. Je sais pas, fallait que je fasse partie seul monde à mes jeux puis faire... ouais, tu sais que ça donne une excuse pour pas avoir un cours de maths. Mais le pire, c'est... c'est vraiment pas ça l'intention, mais ça se passait pas dans le cours de récréation. Là. C'était vraiment dans le temps de leçon. Et une des fois les plus marquantes, c'est quand j'ai voulu faire une pièce de théâtre. Et là, déjà, on vient juste d'apprendre à lire. Tu sais, c'est épouvantable parce que le texte était super long. C'était une adaptation. Oh! C'est une adaptation de plusieurs épisodes de Dans une galaxie près de chez vous, mais comme fusionné avec une nouvelle scène où il y avait des fleurs qui... mon Dieu, se sortait de terre. Je le souligne parce que ça m'a remarqué... pauvre Patricia, c'est une de mes amies de classe, puis elle jouait la dite fleur, mais je l'avais comme cachée dans un gros bac pour qu'elle puisse comme pouf surgir de nulle part, comme à l'éclos. Puis non, tu sais, elle a eu chaud parce qu'on l'avait cachée en dessous d'un drap, fait que disons que la magie du théâtre était vraiment pas au rendez-vous pour ma toute première production. Mais je me souviendrai toujours de... Madame Mireille. Madame Mireille, quelle patience, quelle gentillesse. Mon Dieu, elle croyait en moi, c'est épouvantable. Parce que la pièce, je vous jure, là, tu sais, dans ma tête d'enfant, ça a duré genre 40 minutes. Dans la vraie vie, j'en ai aucune idée. Mais, mais restez là, tu sais, avec un grand sourire, vraiment de croire au projet, puis... d'avoir la patience aussi de l'écouter tout le long parce que le petit Nicolas qui était juste à côté, ah, lui, il dormait solide, là. Lui, il était comme, c'est trop cette pièce. Ça n'empêche pas que ça ne m'a pas dissuadé de faire d'autres pièces de théâtre. J'en ai fait en 3e, 4e et 5e année. Puis les autres fois, c'était vraiment mes textes que je présentais sur scène avec mes amis ou ceux et celles qui voulaient participer. Là, je n'étais pas regardante. Surtout que j'avais quand même eu une leçon là, par rapport à la deuxième année, là. Les textes étaient vraiment plus courts pour que ça soit plus digeste pour tout le monde. Reste que c'est là, tu sais, c'est là dans ma vie. Retour à la genèse. Ben, la genèse de l'adaptation, parce que, oui, le théâtre, tu sais, c'est pas si loin que moi. Là. J'ai étudié de façon amateur au secondaire puis au cégep là-dedans, mais tu sais, j'ai jamais continué. Jusque dans mon cœur, ça reste quelque chose d'important. Mais en août 2020, c'est pas le théâtre qui vient être t'sais, bon, mon petit déclic pour faire l'adaptation, mais plutôt la situation sociale de l'habitation et du logement locatif, la bulle immobilière, bref, le COVID, encore une fois, ça aura tout exacerbé, tout! Et je trouve que, oui, c'est un des sujets qui me tient à cœur, fait que nécessairement, dans ma tête puis dans mon cœur, je mets beaucoup l'accent là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que toute la situation immobilière s'est exacerbée durant le COVID. Les gens qui ont le temps de rénover, acheter, les rénovictions des gens qui n'ont pas pu se retrouver de logement, l'itinérance aussi, qui était, tellement mal prise, oui, avec des services d'urgence, mais parfois même inadéquat pour les besoins des gens, plus de gens aussi qui en ont besoin. Et particulièrement dans Hochelaga, quand je vous dis en août 2020, c'est là que ça devenait de plus en plus flagrant. C'est qu'après le 1er juillet, il s'est érigé un camping qui s'est appelé le Camping Notre-Dame. Et c'est parce qu'il y avait vraiment des tentes qui étaient placées... toutes proches, là. On avait l'impression d'un petit village avec des habitations de fortune, avec ce qu'ils pouvaient trouver pour pouvoir avoir un toit et qu'ils puissent dormir. Il y avait une vraie douche, une douche portative, là, mais ça n'empêche pas qu'il était organisé. Il y avait aussi une place centrale pour les gens. Certains services aussi alimentaires étaient venus jusqu'à eux, ou en tout cas, ils utilisaient une génératrice qui aura bien choqué certains gens qui venaient de s'acheter des condos. Et pour moi, j'ai tellement trouvé qu'il y avait une si belle solidarité dans ce camping-là. Et surtout que c'était la première fois depuis combien de temps? Je sais pas, je sais pas pourquoi j'essaie de mettre une mesure temporelle là-dessus, mais je trouve que c'est difficile de mettre une voix sur l'itinérance. Ça reste qu'il n'y a pas de représentants pour ça. Oui, des organismes, mais pas les gens qui le vivent. Tandis que là, avec le Camping Notre-Dame, c'était la première fois qu'on l'entendait, que des gens, justement, n'ont pas pu se retrouver en logement à cause des rénovictions, parce qu'il n'y avait pas les moyens des logements à faire, parce qu'il en manque des logements à prix abordables. C'est une réalité, puis les impacts directs, c'est ça, c'est de plus se trouver une place où vivre et être littéralement à la rue. Puis aussi de donner une voix aux gens que non, l'itinérance, c'était pas quelque chose de nouveau, mais ça n'empêche pas qu'ils ont le droit à la dignité, puis ils ont le droit que les services soient offerts, ou juste de l'autodétermination. Tu sais, ils ont décidé de faire un camping leur village, leur lieu de vivre, parce qu'ils pouvaient s'entraider, parce qu'ils pouvaient ne pas être seuls, parce qu'ils pouvaient choisir comment eux, ils vivaient aussi. Puis il y avait quand même, ouais, une certaine gestion là, à l'interne. Ils ne laissaient pas faire n'importe quoi non plus là, sur place. Fait que moi, ça m'a particulièrement touchée juste à temps qu'ils soient carrément rasés par la ville en septembre. Et tout le monde était impuissant par rapport à ça. Je parle en tant que citoyen. Et c'est là que ça me choquait de me dire, Colin, mon roman, j'ai voulu parler de la gentrification, puis le sujet est plus criant que jamais de l'impact de la gentrification sur nos quartiers, de la pression sur le marché locatif. Fait que j'étais comme, ah! Mon livre, il vient de paraître, puis une vie médiatique d'un livre, là, au Québec, c'est quand même court. Ça peut aller comme 2 semaines, 1 mois, puis j'ai déjà géré à peine, là. Quand je dis que j'ai été chanceuse par rapport à une sortie en été, c'est que, ah, déjà, tu sais, je veux dire, celle qui s'occupait des cas, ma maison d'études était partie en vacances, j'étais comme, ah! Tu sais, ça vient de couper la promo. Mais inversement, on a pu en parler en septembre alors que le livre était paru en juillet. Fait que je pense que ça aura permis qu'on en parle plus longtemps, mais ça n'empêche pas que... Oui, j'ai voulu parler des vagues de vandalisme contre la gentrification de 2014 à 2017, mais là, on était ailleurs. Il n'y avait même plus de vandalisme, il y avait juste les constats des impacts concrets et directs du manque de logements abordables. Fait que je réfléchissais très fort chez nous, tu sais, de faire quelque chose de positif de mon impuissance. Dans la première saison de Jus de cerveau, c'est vrai, je vous l'avais dit, j'essaye de prendre je sais pas, ce qui me fait chier dans la vie, là. J'essaie d'en faire quelque chose de positif avec la création. Ou du moins, c'est ça mon moteur, là. aussi plate soit-il, parce que ça fait que tu vois, c'est tiraillant à l'intérieur de moi, tu sais, genre, quand ça me gosse, ben ça me gosse aussi de le partager publiquement, là. C'est beaucoup de fragilité. Mais cette fois-ci, ben ouais, c'est ça, c'était juste de, ah, le timing est encore là, il y a quelque chose à faire, là. Il faut! Et ma première idée, ben, c'était de juste militer de façon très, très classique. Mais je ne savais pas par où partir. Est-ce que, tu sais, j'écrivais au FRAPRU, qui est un organisme de militantisme contre, ben, justement, tu sais, l'accessibilité au logement. Je ne sais pas. Moi, mon premier réflexe, aussi drôle peut-être soit-il, c'est de communiquer avec mon maire d'arrondissement, Pierre Lessard-Blais. Et première chose que j'apprends quand j'y écris, ben, tout d'abord, c'est qu'il écoutait Critique de Crowd. Ça, c'était cœurant. Puis ensuite, ben écoute, il a été très sympathique. C'était le seul politicien aussi qui a répondu aussi vivement à mon appel de « Qu'est-ce que je fais pour militer contre la gentrification? » Tu sais, c'est vraiment candidement ça, là, ma question. Je me disais « Qu'est-ce que je peux faire comme citoyenne pour, ben oui, tu sais, essayer de aider la cause, là? » Je sais pas trop c'est quoi « aider », là. Tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose de flou, là. Je me sentais autant impuissante après son appel ou presque, parce que, ouais, impuissante parce qu'il m'avait dit « reste chez vous ». Parce qu'il m'avait dit, tu sais, avec l'augmentation des prix des loyers, si tu veux rester dans le schlaga, déménage pas. Puis ça, j'ai trouvé ça, ouais, très déprimant. Ensuite, il m'avait dit qu'il y avait une citoyenne qui voulait elle-même militer à sa façon pour la cause, puis il voulait nous mettre en contact, puis je pense que la seule fois qu'on aurait pu se parler, ben, ça s'est pas passé. J'avoue que quand il suffit d'une seule fois manquer pour qu'on se voit pas ou que les projets se concrétisent pas, je pense qu'il était juste pas dû. Ça, c'est mon humble avis. Puis c'est correct, hein, je veux dire, le timing, grande source de... grande chose de réalisation et de non-réalisation, le timing. Je sens que je vais le répéter souvent, le mot timing. Reste que, ouais, j'ai jasé avec mon maire, je raccroche du téléphone rempli d'espoir sur le coup, hein, tu sais, l'adrénaline, la yes, on fait des choses. Mais ça redescend vite parce que je vois mes limites. Deuxième idée. Durant l'été, justement, de l'apparition de mon roman, j'ai eu deux Q, deux fois le même, mais par deux personnes différentes, et ça aura pas suffi. Ben, plutôt, c'est l'inverse. Ah! Ça aura bien suffi. Juste deux personnes, moi, j'étais comme, OK, ça veut dire qu'on tient de quoi. C'est drôle parce que souvent, quand on me dit d'où vient l'idée d'adapter ton roman, je commence toujours par la deuxième anecdote parce que le premier est pas super super élogieux, fait que je suis un peu gênée. Ben là, on est entre une balado, on est entre nous autres, fait que je vais vous le compter. Alors, c'est un poète du quartier qui a lu mon roman, puis il me le dit, genre, ah, ben oui, je l'ai lu, c'est sympathique, mais il y a beaucoup de dialogues et c'était vraiment un complimard de la part de quelqu'un de littéraire, là. Je sais pas trop si les dialogues, ça tombait dans la facilité ou je sais quoi, là, mais lui, il a bien pris le temps de me le souligner, là. Ah, il y a du dialogue, hein? Mais il m'a aussi glissé en même temps que ça ferait une bonne adaptation pour cette raison. Bon, sur le coup, je suis choquée parce que c'était pas fin et fin, mais... Mais ça va, je veux dire, j'en ai tiré que le bon, parce qu'il m'a dit ça ferait une bonne adaptation. Je suis OK. Deuxième fois. Un beau matin, sur Facebook, je vois un ajout de le beau-père de Sébastien Colin, le propriétaire, gérant, homme à tout faire, président de spectacle Banzai. Puis là, je me dis, pourquoi son beau-père m'ajoute sur Facebook? Tu sais, ça sortait vraiment de nulle part. Je l'ai jamais rencontré de ma vie, ce gars-là. Fait ben, je fais comme allô, ben, je te replace de ton nom de famille, mais que vaut l'honneur de cet ajout? Et c'est là qu'il me compte, ben, que Seb, il a prêté mon roman, puis que lui, il a bien aimé ça, et ça en ferait une très bonne adaptation théâtrale. J'avoue que moi, je le connais pas, mais j'ai su. Ah là, j'ai pas le nom exact de son poste, mais il me semble qu'il a travaillé dans le milieu scolaire, puis dans justement, tu sais, la participation des jeunes en culture, l'organisation, c'est ça, des spectacles. Fait que bref, tu sais, c'était vraiment pas incohérent, là, ou sorti de nulle part que ce soit sa suggestion. Mais moi, de me refaire dire en si peu de temps, ça ferait une bonne adaptation, j'étais comme go, go, on y va. Faut dire aussi. Mon premier roman, j'avais essayé de l'adapter moi-même très vite là, pour le festival Jamais lu. C'est un festival de lecture de textes dramaturgiques qui sont en plein travail, qui sont inédits ou qui vont jamais être montés même. Fait que je trouvais que c'est ça, j'aime beaucoup le festival, je trouve qu'ils ont une belle vocation. Fait que je me disais que je devrais m'essayer. Alors là, cette fois-ci, de me le faire dire deux fois plutôt qu'une, d'avoir déjà ça dans le collimateur, Madame Mireille puis ma pièce. Ben écoute, tout était en ligne. J'étais comme, on le fait. Ben, oh, à date, je suis encore toute seule, là. Mais je tends une première perche. J'écris à un ami du secondaire qui est devenu comédien professionnel, Tommy Joubert, s'il connaissait pas quelqu'un qui fait justement de la dramaturgie pour m'aider, parce que c'est pas parce que j'ai envie de faire ce projet-là que je suis la mieux placée seule pour le réaliser. Alors, lui, il va me suggérer une de ses amies. C'est Marianne. On n'aura pas son nom de famille. Marianne, merci beaucoup de m'avoir suggéré Jonathan Caron. Elle m'avait dit, Jonathan, c'est le gars pour ton projet parce que sa toute première pièce, c'était Starshit et lui, il abordait la dynamique dans les cafés Starbucks, là, ça, pour ne pas les nommer. Puis il y avait quand même un lien à faire entre nos humours, le regard critique social et moi, dans mon cas, c'était le Dairy Queen. Même si après la lecture de Starship, ça, on n'est pas. C'est ça, je pense pas que. Les Dangers étoiles, c'est pas une satire, contrairement à Starship, mais je voyais, tu sais, les liens que Marianne pouvait avoir faits. Hein. Alors, c'est comme ça qu'un 2 octobre, je vais écrire à Jonathan sur Messenger, à Mark Zuckerberg. J'allais dire, on peut l'haïr, mais c'est fou pareil, les contacts qu'il fait aussi facilement, là, moi. J'avoue que Mark Zuckerberg, j'aurais dû le mettre dans les remerciements, dans le programme, parce qu'à quelque part, je lui en dois. Quoi que ça aurait pu, je pense qu'encore une fois, si ça a se passer, ça se passe aussi, les projets, mais au téléphone, à une autre époque, ça aurait peut-être été un petit peu plus long. Parce que 5 jours plus tard, Jonathan, ben, il répond à mon message aussi avant, là, mais 5 jours plus tard, il a lu le roman, puis il fait OK, ça m'intéresse. Puis c'est vraiment j'allais dire un artiste professionnel, comme si je l'étais pas ou qu'est-ce qu'un artiste professionnel. Mais il y a vraiment une vision de pour faire, pour créer, faut se donner les moyens. Et moi, j'avoue que c'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que j'ai jamais eu mes subventions. J'ai toujours écrit mes romans ben, sur mes heures à moi. Et anyway, écrire, ça me coûte juste avoir un ordinateur là, que je me sers déjà pour le travail. Peut-être aussi parce que ma job alimentaire, que j'appelle plus ma job alimentaire, ben je l'aime. Alors, ça fait toujours le sentiment de je suis toujours dans un compromis entre la vie payée et la création. Mais ça m'a vraiment remis ses rails là-dessus, Jonathan, avec cette drive-là. Puis aussi parce qu'on se connaissait pas. Fait que sûrement que pour concrétiser le projet, c'était genre, OK, bon, ben, on va tout de suite aller demander au théâtre Denise Pelletier s'ils veulent, ben ouais, nous appuyer dans le projet, tu sais, juste nous suivre là-dedans, nous parrainer un peu. Et aussi de déjà penser à une équipe. Et là, il me dit, je veux travailler avec Oli Courtois. Et après, il est comme, OK, puis aussi, il faudrait déjà penser à faire des démarches pour des demandes de subventions pour pouvoir avoir de l'argent pour écrire. J'étais comme, tabarnouche! OK, dans la vraie vie, je pense que c'est pas... Je pense pas que ça a été les trois dans la même discussion, mais en très peu de temps, tout ça, ça a été comme vraiment mis en évidence, là. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est comment on pouvait être sur la même longueur d'onde, même si on se connaissait pas. Parce que le théâtre Denise Pelletier... Moi, là, quand j'ai décidé, et je ne l'ai jamais partagé à personne, c'est une exclusivité, ben c'est sûr que je voyais la pièce au théâtre Denise Pelletier, parce que c'est le seul théâtre dans Hochelaga-Maisonneuve qui est à vocation scolaire. Je suis allée toute mon adolescence au théâtre Denise Pelletier. Fait que c'est sûr que je m'imaginais là, ou ben dans la plus petite salle, la salle Fred Barry. Fait que déjà, lui, sa dernière production, c'était au Fred Barry, qu'il leur suggère encore, c'était d'une évidence pour moi. Ensuite, Oli Courtois, déjà qui fait partie du liseur public, qui a fait partie de mon lancement en juillet, bien, c'est surtout un ami. Et pour les habitués de la marge, bien oui, vous aurez reconnu son nom, c'est l'ancien animateur du Cubicule, qui a existé pendant plusieurs années, une émission spécialisée en théâtre avec l'Escadron Création. C'est carrément sa compagnie de théâtre là, qui animait le show. Puis Oli, s'il a voulu animer à CISM, c'est parce que c'est moi qui l'a convaincu. Ben, convaincu juste par mon enthousiasme de parler de CISM. Là, honnêtement, j'ai jamais dit « Ah ouais, go, go, go! » J'ai jamais mis de pression. Mais ça n'empêche pas que Oli, si j'en ai parlé de CISM, c'est parce qu'on était placiés ensemble au théâtre Denise Pelletier! Ah! Quelle inception! Comme tout est dans tout, épouvantablement, dans ce projet-là. Et surtout, Oli, c'est mon voisin de cour. Fait que quand un gars que je connais zéro me dit « il faut absolument que je travaille avec quelqu'un que je veux qu'il soit notre directeur de production », à ce moment-là, j'ai aucune idée que ça mange en hiver, directeur de production en théâtre. Mais il me dit « je veux absolument que ce soit Olivier Courtois ». Ça m'a tellement mis à l'aise, ça m'a tellement mis en confiance. Je me dis, je vais travailler avec quelqu'un que je connais. Parce que oui, finalement, directeur de production, je suis pas à l'avance. Parce que c'est ça, je sais pas encore c'est quoi, mais c'est comme un peu la personne qui chapeaute, toute la production, mais qui va beaucoup s'occuper des gens qui s'occupent de la conception, là, qui est moins du côté artistique, là, mais plus le côté budget et technique. Qui vient s'assurer que tout va à bonne place, dans les bons timings. Fait que ça reste quelqu'un d'essentiel. Puis aussi, parler d'argent avec quelqu'un, ben j'avoue que ben de le faire avec quelqu'un que je connais au lieu d'un pur inconnu, c'est ça aussi, ça, moi, je pense que ça fait quand même une différence. Fait que là, je connais zéro Jonathan, on est déjà aligné sur plein de choses, on prépare un document, on n'a toujours pas écrit une ligne de la pièce, je tiens à le souligner, puis on écrit déjà au théâtre Denise Pelletier, tu as un petit dossier, fait « ouais, ben on a envie de vous présenter de quoi », et j'ai eu un retour d'appel de l'adjoint, aïe, j'ai plus le titre exact, Colin, mais de l'adjoint au directeur artistique du théâtre Denise Pelletier, Claude Boisson. Mais j'ai parlé avec Nicolas Gendron, que je connaissais pas. Mais là, il m'explique que non, tu sais, ils font pas ça du parrainage ou... eux autres, ils fonctionnent comme... Il y a un appel de projet et les projets qui fit, ils les incluent dans leur programmation. Et ceux que ça fit pas, ben on leur dit « bonne chance dans vos démarches ». Et ben ouais, on fonctionnait pas trop dans la tradition. Et je sais pas comment je l'ai su, mais Nicolas Gendron, il y a une compagnie de théâtre qui fait de l'adaptation théâtrale! Sa compagnie Ex Libris qui a fait, j'allais dire, comme un mix de plein de textes sols, puis aussi adapté « Au pire, on se mariera » de Sophie Bienvenue. Alors je me dis, ben là, on peut pas l'impliquer. C'est comme la personne qui peut aussi bien nous conseiller, parce que Jonathan, lui aussi, c'était sa première fois pour une adaptation théâtrale. Fait, je me dis, hey, si lui... il pouvait nous aider, hey, ce serait parfait. Ce serait parfait, mais ce serait un beau conflit d'intérêts. Non, mais j'étais tellement comme candide au téléphone quand j'avais dit, hey, mais toi, ça te tente pas? Ça te tente pas de nous aider? Puis il était un peu comme, ouais, ben, je peux faire la part des choses, avoir deux chapeaux et veiller à ne pas mettre les chapeaux en même temps sur ma tête. Écoute, c'est ce que je lui propose et je lui laisse une copie, un exemplaire de mon roman et je fais comme, ben, lis puis reviens-moi. Et dès les premières pages, Nicolas, il m'a avoué qu'il n'a pas eu le choix d'accepter parce que le roman, il s'ouvre sur le Rap Party de la Fête des Neiges, qui est un vrai festival pour enfants, là, au parc Jean-Drapeau. Et lui-même a été pingouin à la Fête des Neiges. Il m'avait même envoyé une photo à l'appui. Et ça me fait rire encore parce que Prunelle, elle était pingouin. Et c'est là que la réalité et la fiction. Ben nécessairement, quand la fiction s'inspire de la réalité, elle peut s'entrecroiser très, très, très souvent. Mais cette fois-ci, ben ça aura bien fait les choses parce que c'est comme ça que Nicolas y a accepté. Grâce à un pingouin. Hey, ça va être clôturé le la balado sur une note très très légale. Ben écoute, tout ce projet-là aurait pas été possible si ma maison d'édition, les très gentils XYZ, ne m'aurait pas rétrocédé mes droits. Et ouais, hey, c'est sérieux, hein? Mais c'est ça pareil, je veux dire, quand j'ai signé mon contrat, hey, ça c'était 2 ans avant la parution, c'était 2018. Fin 2018, ben je veux dire, dans mon contrat, ben c'est marqué que eux autres, ben ils touchent un pourcentage quand quelqu'un réclame les droits pour faire, par exemple, une adaptation cinématographique. Bon, cette fois-ci, c'est du théâtre. Mais là, c'est moi qui fais les démarches. C'est moi qui lead le projet. Fait qu'on a juste jasé devant une petite molle au Dairy Queen sur Sainte-Catherine. C'est pas des jokes, c'est vraiment pas des jokes. Fait que j'ai parlé avec mon éditrice Myriam, puis elle a dit: Ah oui, c'est le fun. Ben oui, on embarque, puis on t'aide là-dedans. Aider étant de ben, m'alléger, disons, le poids légal dans la démarche, là, pour pas comme me payer moi-même des droits ou que eux ils touchent. Ils font comme. T'avances toute seule là-dedans, puis go, tu sais, on va te soutenir aux limites d'une maison d'édition parce que c'est ça, tu sais, c'est pas leur projet à eux autres, puis c'est pas comme leur roman, eux autres sont là pour éditer des livres, pas produire des pièces de théâtre. Mais ça n'empêche pas que ça me fait rire encore. Le côté très bonne franquette, là, c'est pour ça que je dis la très gentille maison XYZ parce que quand même, dealer des droits en mangeant de la crème glacée, c'est faut le faire. Vous venez d'écouter le premier épisode de Jus de cerveau, la 3e saison. Dans le prochain épisode, je vous jase de l'écriture.